L'Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Rendre service de tout son pouvoir, de toutes ses forces. Il n'est pas de plus noble tâche sur terre. Amis auditeurs, bonjour. Cette citation de Sophocle vient percuter de plein fouet l'état d'esprit individualiste dans lequel bien souvent nous vivons. Cet appel à se mettre au service des plus faibles rejoint ce fameux verset de l'Évangile. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10:45. Je reçois aujourd'hui un jeune homme qui a décidé de vivre cette parole de l'Évangile en donnant 8 mois de sa vie en tant que volontaire des missions étrangères de Paris. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame. J'accueille aujourd'hui sur mon plateau Louis. Bonjour Louis.
Bonjour Joseph, ça va ?
Louis, vous avez décidé de partir l'année dernière en tant que volontaire pour les missions étrangères de Paris et vous avez été envoyé en Indonésie. Louis, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs et nous dire comment vous est venue cette idée de partir en tant que volontaire ?
D'abord, bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis parti en volontariat donc, l'année dernière avec les missions étrangères de Paris, société catholique qui envoie des prêtres et des volontaires depuis plus de 360 ans maintenant. Et je suis étudiant en Master 2 à Paris et en alternance également en entreprise. Et j'ai décidé l'année dernière de faire une pause dans mes études, une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 pour m'engager au service de la mission en Asie avec les MEP.
Donc vous avez décidé de vous engager, vous l'avez dit, au service de la mission. Comment se déroule le processus d'admission ? Vous vous dites, bon, alors je vais partir, je vais faire de l'humanitaire, je vais partir avec les MEP. Pourquoi les MEP et comment est-ce qu'on devient volontaire MEP ?
Exactement. Alors, petite précision, c'est du volontariat et pas de l'humanitaire, c'est-à-dire qu'on part en mission dans une communauté généralement. Donc on vient répondre à un besoin d'une mission, que ça soit dans la gestion de projet, dans la santé, dans l'éducation, comme beaucoup de missions, comme les mines notamment. Et pour parler plus spécifiquement du processus de recrutement, on prend contact avec les missions étrangères en amont de la mission pour discuter, passer des entretiens avec le service de recrutement, pour discuter de nos compétences, de notre profil, comprendre si notre projet correspond aussi au volontariat MEP et aux objectifs qu'on a. Et c'est donc une occasion à la fois de revenir sur notre parcours, mais également discuter sur le projet avec des gens qui, du coup, s'occupent spécialement de ça.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi la communauté des MEP et pas une autre communauté ?
Alors, j'ai choisi la Société des missions étrangères de Paris parce que j'étais intéressé par l'appel missionnaire que j'avais découvert en 5e lorsque j'ai visité les missions étrangères rue du Bac avec mon collège. Et j'ai entendu parler plus spécifiquement du service volontariat qui envoie les jeunes en 2021 lorsqu'un ami d'amis est parti en mission au Népal.
Donc vous nous avez dit que vous avez pris contact avec les missions étrangères de Paris. Et ensuite, comment est-ce que ça se passe ? Par exemple, est-ce que vous choisissez votre pays de mission ? Est-ce qu'on vous envoie comme ça du jour au lendemain ?
Alors, on n'est pas envoyé du jour au lendemain. Et en fait, j'ai candidaté en mai 2023 pour partir pendant mon année de césure, donc de septembre à juin l'année dernière. Et donc, suite à mes entretiens en ligne, j'ai participé à la semaine de formation qu'il y a avant la mission, qui concerne tous les futurs volontaires. Et c'est durant cette semaine que j'ai appris que je partais en Indonésie. Pour remettre dans le contexte, depuis 360 ans, les pères choisissent de s'engager dans la mission pour les MEP et ne connaissent pas leur pays de mission, mais ils le reçoivent lors de leur ordination diaconale. Et il en est de même pour les volontaires qui reçoivent leur mission de la part du conseil du volontariat qui choisit pour eux en fonction de leur profil et de plusieurs paramètres. Mais pour plutôt revenir sur l'aspect spirituel, c'est plutôt un abandon à la mission qu'un choix personnel de dire qu'on voudrait partir dans tel pays ou dans telle mission, selon des préférences. L'esprit MEP, c'est aussi s'abandonner à la mission sans chercher à tout décider par soi-même.
Vous nous parlez d'abandon, mais est-ce que vous avez quand même eu une réaction quand vous avez appris que vous partiez en Indonésie ? Est-ce que vous aviez prévu peut-être ce pays ou est-ce que vous y avez réfléchi ?
Alors, je ne connaissais pas du tout l'Indonésie, à part les connaissances plutôt classiques de Jakarta, Java un petit peu, et j'avais aussi entendu parler de Bali. Mais je ne connaissais pas vraiment l'Indonésie, et ce n'est pas non plus un grand pays de mission pour les MEP, parce que les visas sont compliqués à obtenir là-bas. Donc, il y a de moins en moins de prêtres et de volontaires qui sont envoyés. Donc, même durant la semaine de formation en juin l'année dernière, Je n'avais pas trop entendu parler de l'Indonésie, donc c'était un peu une surprise, mais que j'ai accueilli avec beaucoup de joie et beaucoup de curiosité aussi par rapport à cette culture et à ce pays qui est très très grand.
Vos parents, ils ont bien réagi ?
Mes parents ont bien réagi, ils étaient contents d'ailleurs de... En fait, je ne leur ai pas dit pendant la semaine de formation que j'avais reçu mon pays de mission, et ils l'ont découvert pendant la messe, lors de la messe d'envoi qui se déroule le dimanche à la fin de la semaine, qui vient conclure cette semaine qu'on a passée au MEP, où on vient habiter là-bas pendant une semaine. Et ils ont bien réagi.
Vous nous parlez de cette semaine de formation. Qui apprend-on lors de cette semaine de formation ? Comment est-ce qu'on se prépare à vivre cette mission ?
Donc, la semaine de formation, elle est très vaste et assez dense, il faut le dire quand même. Et donc elle démarre le lundi et se conclut le dimanche par la maison d'envoi, comme je l'ai précisé. C'est une semaine qui permet à la fois de comprendre l'esprit MEP, comprendre pourquoi on part, qu'est-ce qu'on porte avec nous quand on porte le polo MEP, qu'est-ce que ça signifie de partir avec la société des missions étrangères, comprendre du coup les pairs qu'on peut rencontrer, les pairs asiatiques aussi qui sont en étude à la maison à Paris en thèse, qui nous permettent aussi de mieux comprendre qu'est-ce que l'Église asiatique et comment, toute sa richesse, toute sa diversité dans la rencontre qu'on peut faire. Et c'est aussi l'occasion d'avoir des topos plus pratiques sur des questions de santé, d'assurance. Ça rassure aussi les futurs volontaires. Et c'est aussi ce qu'on appelle des topos, c'est plus des classes sur des cultures. On a aussi des topos sur des religions. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir toute la palette du volontaire dans son ensemble, du côté plus pratique jusqu'au volet plus spirituel, en passant par la découverte de plusieurs cultures et l'occasion aussi de rencontrer donc l'équipe du volontariat au complet qui s'occupe de la mission avant, pendant et après. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer les futurs volontaires qui partent comme nous en mission.
Ils partent où, les volontaires ? Ils partent qu'en Asie ?
Donc, c'est ça. En fait, la Société des missions étrangères envoie uniquement des missionnaires et des volontaires en Asie et dans l'océan Indien. Donc, ça inclut aussi Madagascar et l'île Maurice pour les volontaires. Et sinon, c'est réparti majoritairement sur l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Inde, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, un grand nombre de pays qui sont au nombre de 19.
Et après cette semaine de formation, vous nous avez parlé d'une messe d'envoi. Concrètement, cette messe d'envoi, est-ce que c'est quelque part un passeport en disant, voilà, vous êtes prêt pour votre mission et vous êtes envoyé au service de l'Église et des missions étrangères de Paris ?
Exactement, cette messe, elle a une grande symbolique pour les volontaires, puisqu'elle ressemble à la messe d'envoi des pères aussi, qui partent en mission depuis, comme je le rappelle, plus de 360 ans maintenant. Et la messe d'envoi, c'est aussi un moment symbolique où le père nous appelle, on se lève en disant « me voici ». Donc, dans mon cas, c'était Louis pour les missions étrangères de Paris en Indonésie. Et donc, à ce moment-là, on se lève et on prononce ces mots « me voici ». Comme les pères missionnaires.
On va maintenant entrer plus profondément dans votre mission. Donc Louis, vous prenez l'avion, vous arrivez en Indonésie, vous descendez de l'avion, et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Dans ma tête, je suis complètement perdu, il fait très chaud, l'environnement est très différent de ce que je connais de la France, de ce que j'ai vécu. Donc c'est à ce moment-là, le 1er septembre 2023, début de cette nouvelle année pour moi, de cette nouvelle expérience, et on est directement accueilli par le père qui se traduit par Romo en indonésien, le Romo Joni, donc directeur du collège-lycée où je vais être professeur pendant 8 mois, et aussi responsable de l'internat des garçons, dans lequel j'aurai ce rôle d'éducateur de grand frère en quelque sorte.
Ouais, parlez-nous de votre mission, quelle est la mission que les MEP vous ont demandé ?
Donc moi je suis parti en mission au sud de Sumatra en Indonésie, sur une île qui est du coup située au sud de la Malaisie de Singapour. Une île où il y a une certaine communauté catholique qui est une minorité, parce que l'Indonésie est un pays qui a à peu près 90% de musulmans, donc où les catholiques sont complètement en minorité. Et moi je faisais partie de l'ordre du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, fondé par Léon Déon, d'où l'appellation les Déoniens, qui est implantée en Indonésie depuis une centaine d'années, qui est arrivée par les influences du Pays-Bas et belge qu'il y a eu dans la région. Et donc, j'étais dans un collège-lycée où je donnais des cours d'anglais le matin, de français l'après-midi, et puis certains cours au collège aussi. Et du coup, comme je le disais précédemment, j'habitais aussi dans l'internat qui était tenu par les pères, qui était une grande maison qui était à 5 minutes du lycée, qui concernait toute une partie de la promo qui vivait en tant qu'interne.
Vous étiez le seul volontaire ou est-ce qu'il y avait d'autres jeunes avec vous ?
Alors, c'était aussi sympa parce que j'ai pu partager beaucoup de moments de ma mission avec des co-volontaires, donc... Pour remettre dans le contexte, il y avait le lycée, mon internat à peu près à 100 minutes à pied, et un peu de l'autre côté de la ville, il y avait deux internats tenus par des sœurs, où j'ai vu du coup passer successivement trois filles qui étaient également en volontariat comme moi.
Est-ce que vous avez bougé un petit peu quand vous étiez en Indonésie? Est-ce que vous avez l'occasion de voyager? Ou est-ce qu'au contraire, on vous demande de bien rester là où vous êtes dans votre mission?
Alors, le principe du volontariat, c'est du coup de partir en mission. Donc, on n'est pas là pour partir en vacances. Mais il y a évidemment des pauses, des moments où on a besoin de relâcher un petit peu de la mission, de se reposer. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité pendant les vacances de Noël de partir un peu plus d'une semaine dans le nord de Sumatra pour découvrir divers endroits, une autre facette de l'île. Notamment le lac Toba, qui est un lac très connu, de par sa taille et de par le fait que c'est aussi d'autres communautés, parce que l'Indonésie est séparée en communautés et il y a beaucoup de langues différentes, beaucoup de cultures, et donc c'était aussi l'opportunité pour moi de découvrir une autre facette de l'Indonésie. Et après, pendant la semaine sainte, j'ai aussi été sur l'île de Java, l'île la plus connue, où il y a notamment la capitale Jakarta, la future ancienne capitale, puisque l'Indonésie va changer bientôt. Et j'ai aussi été à Bali une semaine dans un séminaire au mois d'avril, et qui m'a permis aussi de visiter pendant quelques jours en tant que touriste cette île si connue de l'Indonésie qu'est Bali.
Je rebondis sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de cultures différentes et de langues différentes. Est-ce que l'adaptation a été compliquée?
L'adaptation a été compliquée, ça, plus ou moins, puisque finalement c'est quand même la langue qui s'appelle le Bahasa Indonesia, qui est la langue commune à tous les Indonésiens, possède le même alphabet, ce qui simplifie quand même l'apprentissage. Mais cependant, il n'y a pas de lien avec nos langues latines par l'alphabet, donc il faut repartir de zéro sur toutes les racines de tous les mots en termes de vocabulaire. Par contre, la conjugaison est plus simplifiée. Et pour parler culture en général, l'Indonésie est un pays, c'est un archipel d'îles immense puisqu'il y a plus de 17 000 îles. Il y en a 9 000 qui sont habitées et on parle, selon les estimations, entre 900 et 1000 langues différentes. Donc c'est très compliqué de faire une généralité sur les Indonésiens parce qu'ils possèdent tous leur propre culture et leur propre manière de parler ou juste de voir la vie. Et du coup, par contre, j'ai, au début, effectivement, ça a été assez difficile d'apprendre le Bahasa Indonesia, qui est la langue commune à tous les Indonésiens. Ce qui m'a pris un certain nombre de mois, mais ce qui est venu au fur et à mesure, et en même temps, je faisais des mélanges avec l'anglais, avec les personnes que je rencontrais, donc une adaptation assez exigeante, mais totalement réalisable, totalement possible.
Amis auditeurs, nous sommes avec Louis, qui est parti en mission pendant 8 mois en Indonésie, dans le cadre du volontariat des missions étrangères de Paris. Restez bien avec nous, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, amis auditeurs. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Et nous retrouvons Louis après Emmenez-moi de Charles Aznavour. Louis, est-ce que l'Indonésie c'est ce pays des merveilles dont nous parle Charles Aznavour ?
L'Indonésie, c'est à la fois un pays des merveilles par sa diversité et en même temps un pays qui a ses propres difficultés, comme la France, comme tout autre pays, par son envie de se développer, son envie de grandir. L'Indonésie, c'est un peu ce pays de tous les possibles, de tous les rêves, mais où il faut aussi composer avec une diversité des territoires, des cultures, qui fait que faire fonctionner tout le monde à l'unisson, c'est pas forcément possible, facile. Mais effectivement, c'est un pays qui fait rêver beaucoup de monde et a raison.
Cette chanson, elle reflète votre état d'esprit quand vous êtes parti. Vous vouliez partir au bout de vos rêves, vous vouliez sortir de la France et aller à l'autre bout du monde.
Cette chanson, elle, au-delà de résumer plus ma mentalité d'avant mission, ça m'évoque pour moi plutôt même l'adolescence où j'écoutais déjà cette musique qui me parle effectivement dans ses envolées assez lyriques. Et qui me plaît beaucoup, effectivement.
Je reviens sur votre mission, Louis. On s'imagine, vous êtes à l'autre bout du monde, et ça fait déjà 5 mois que vous êtes là-bas. Est-ce qu'il y a des moments où on se sent seul, où on se dit que la France nous manque ?
Il y a des moments où... Alors, la solitude, ça n'a jamais été trop un sujet de par mon caractère, qui fait que je m'adapte assez bien à toutes les situations. Par contre, la perte de repères, à certains moments, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et qu'est-ce qu'on veut faire au futur. Ça nous efface à certains moments et on perd un peu pied avec le présent en essayant de comprendre des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de se relâcher, de travailler sur son lâcher-prise pour profiter de la mission à 100% sans se poser trop de questions.
Mais, qu'est-ce qui vous a le plus manqué, vous diriez ?
Le plus manqué je pourrais pas exprimer un réel manque, puisque j'étais quand même entouré de par les pères indonésiens qui me donnaient beaucoup de conseils, ou mes co-volontaires avec qui je pouvais beaucoup échanger par rapport à la mission, par rapport à la France et tout ça. Mais il m'a peut-être manqué effectivement parfois un peu de lâcher prise, de profiter de la situation plus naturellement, sans me poser trop de questions.
Vous êtes accompagné quand vous êtes là-bas ? Est-ce qu'on prend de vos nouvelles ? Est-ce que vous avez un contact quand même avec, par exemple, l'émission étrangère de Paris ?
Alors exactement, c'est une très bonne question puisque l'émission étrangère nous accompagne, le service volontariat nous accompagne avant, pendant et après la mission. Et donc comme j'expliquais, il y a cette semaine de formation en amont, mais il y a aussi, dès qu'on reçoit sa mission, un responsable de mission à qui on est affecté du coup pour le pays, qui s'occupe de tous les volontaires dans le pays et qui nous accompagne dans les démarches en avance pour se préparer à la mission, qu'elle soit administrative ou simplement un accompagnement personnalisé. Et pendant la mission, on a des points réguliers avec nos responsables en France qui viennent nous demander comment se passe notre mission d'une manière plus pratique, fonctionnelle, mais aussi comment se passe notre mission personnellement, dans ce qu'on ressent et comment on la vit. Et après, on a également un week-end retour qui nous permet de venir, encore une fois, rue du Bac, débriefer, entre guillemets, de la mission.
Concrètement, est-ce qu'il y a des anecdotes, des moments que vous ressortiriez qui symbolisent vraiment ce que vous avez vécu pendant ces 8 mois ?
Il y a un nombre évidemment incalculable d'anecdotes que j'ai vécues, mais je retiens à certains moments, comme en janvier, où notamment j'ai pu faire un peu plus d'un mois dans un orphelinat, dans la campagne, dans la jungle à circuler en Indonésie. Et moi, durant lequel je partais le week-end avec un prêtre en pirogue motorisée pour aller dans plusieurs messes dans plusieurs paroisses qui étaient réparties dans un territoire qui devait faire la taille d'un département français pour aller faire la messe pendant 2 jours sur tout le samedi et tout le dimanche. Donc j'ai dû enchaîner presque une dizaine de messes en 2 jours pour accompagner le père, parler du lycée que je représentais du coup en Indonésie pour parler aux jeunes plutôt de l'enseignement, de l'éducation, leur parler un peu de l'anglais et puis juste leur parler aussi des MEB, de la mission et aller à leur rencontre. C'est des jeunes qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'étudier comme les Indonésiens que je voyais dans mon lycée, dans mon autre région. Et donc c'était aussi l'occasion de leur parler tout ça, d'échanger avec eux. Et donc c'était vraiment des moments de partage, de découverte aussi, et un environnement qui était complètement différent de mon environnement initial de mission.
Vous avez vécu Noël en Indonésie ?
Oui, j'ai vécu Noël en Indonésie avec le même père directeur d'école que je mentionnais au début de l'émission, que j'ai accompagné dans sa famille dans le nord de Sumatra, à Jambi, pour fêter Noël avec la communauté chinoise catholique du nord de l'île.
C'était comment ? C'était différent de ce qu'on vit en ce moment en Europe ?
C'était assez différent et on a eu une très belle messe le 24 au soir. Et le 25, tradition indonésienne oblige, les voisins se rassemblent et c'est vraiment un Noël tous ensemble. Les familles se rassemblent pour former vraiment une communauté, prendre des nouvelles de chacun. Donc Noël est effectivement également, comme en France, un moyen de revoir sa famille, de se reconnecter avec les gens de notre communauté. Parce que l'Indonésie est un pays très, très communautaire où les gens échangent, les gens discutent beaucoup, se connaissent, sont pratiquants et donc se croisent beaucoup à l'église ou dans des groupes de prière, parfois la semaine, entre familles, entre voisins. Donc Noël est une belle image de la communauté catholique indonésienne.
Il y a des événements spéciaux qui sont prévus à l'occasion de cette fête de Noël dans l'école où tu étais ?
Dans l'école où j'étais, il y avait effectivement des spectacles. Les spectacles de danse et des grandes messes qu'on a célébrées à la fin de l'année scolaire, donc qui s'est terminée autour du 15 décembre, avant le début des vacances scolaires.
A posteriori, Louis, quel enseignement vous retirez de ce volontariat pour votre vie d'aujourd'hui ? Maintenant, vous êtes revenu en France. Qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce qui a changé votre vie ?
Ce qui m'a beaucoup marqué dans la découverte de l'Indonésie et de la culture asiatique, c'est cette différence par rapport à l'Occident, qui m'a poussé à vraiment travailler sur ma patience, sur mon ouverture et d'essayer d'être toujours attentif à ce qui se passe autour de moi. Et donc je pense que aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres pays, c'est vraiment l'occasion de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir aux autres. Et donc c'est ce que je retiens principalement de cette mission que j'essaye de garder dans ma vie tous les jours, c'est-à-dire aller à la rencontre des autres, m'ouvrir et rester curieux.
Votre mission a donc pris fin après ces 8 mois. Est-ce que vous avez quitté l'Indonésie avec des regrets ? Comment s'est passé le retour ?
J'ai quitté l'Indonésie sans regret parce que j'ai vraiment essayé de faire au mieux, comme j'ai pu avec mes capacités, mes forces et mes faiblesses, parce qu'évidemment, personne n'est parfait, les volontaires MEP ne le sont pas non plus. Et concernant mon retour a été un peu plus compliqué puisque j'ai dû re-rentrer dans le moule de l'étudiant français en rentrant en stage au mois de mai. Mais j'ai pu revenir au MEP, notamment lors d'un week-end retour, comme je l'évoquais. Et j'ai pu aussi partager la joie de la mission avec des personnes qui étaient curieuses, qui voulaient en savoir plus sur ce que j'avais fait de mon année de césure.
Dans ce week-end retour de décompression, comment est-ce qu'on reprend contact avec le monde français et avec la vie de l'étudiant ?
On reprend contact avec le monde français, avec sa famille, avec ses proches, en essayant de partager avec eux, de témoigner. Évidemment, ce n'est pas toujours facile d'expliquer ce départ de 8 mois, pourquoi on est parti si loin et pourquoi on s'est engagé au service de l'Église. Mais la joie aussi des MEP, c'est aussi l'occasion de partager ça, de le diffuser autour de nous et pourquoi pas d'inciter des potentiels futurs volontaires à partir.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des engagements, des choses que vous avez faites qui vous permettent de continuer cette mission au service de l'Église ?
Je continue de m'engager au service de l'Église, notamment à l'Ordre de Malte, pour des petits déjeuners à la paroisse à Saint-Germain-des-Prés, et comme dans beaucoup de paroisses en France. Et j'ai aussi la chance d'habiter aux missions étrangères de cette année de Paris pour soutenir le volontariat dans plusieurs missions de bénévolat, pour rester au contact de la mission.
Concrètement, vous êtes passé de l'autre côté de la fenêtre, si je puis parler ainsi. Comment est-ce que ça se passe, un accompagnement d'un volontaire ? Comment est-ce que vous vivez ce service ?
Mon service, moi, il est dédié à l'organisation des événements qui se passent dans la vie de la maison, que ce soit pour les futurs volontaires et les anciens qui reviennent, mais notamment pour l'organisation aussi d'afterwork et d'événements qui sont ouverts au grand public pour venir justement découvrir la mission du point de vue des pairs, mais aussi des volontaires. Donc si vous voulez venir aux missions étrangères de Paris, n'hésitez pas à aller sur le site internet ou regarder sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'événements en lien avec l'Asie, les missions étrangères en tant que telles et le volontariat si vous êtes un jeune intéressé pour un potentiel départ.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouveaux projets ? Peut-être repartir en Indonésie ou alors repartir autre part ?
Pour l'instant, je termine mon Master 2 à Paris, mais je compte bien repartir à l'étranger effectivement pendant ma carrière, que ce soit dans les premières années ou peut-être plus tard dans un autre contexte familial. Mais effectivement, mon appétit pour l'international et pour la découverte d'autres pays ne faiblit pas.
Merci beaucoup, Louis, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est déjà la fin de cette émission. Amis auditeurs, Louis nous a fait voyager. Je le confie à vos prières. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours présent avec nous. C'est vous qui faites le succès de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, que la paix soit avec vous.